Le soleil d'avril était éblouissant, la météo printanière, lorsque nous avons rencontré l'invité de ce soir. Le rendez-vous est fixé au bord du lac de Neuchâtel, à Outrive, au Laténium, le musée cantonal d'archéologie. Mais ce n'était pas pour parler de vestiges d'antiquité, c'était plutôt pour parler d'innovation, de certains des meilleurs produits que le canton de Neuchâtel peut proposer. Face au lac, presque orienté plein sud, une série de photographies géantes dévoile les fonts lacustres construits par la civilisation de l'Athènes. L'innovation est discrète et se dissimule ailleurs sous cette quinzaine de photos, des milliers de capteurs, car ces images sont bel et bien des panneaux photovoltaïques, des panneaux qui produisent le tiers de la consommation moyenne de l'éclairage des salles d'exposition du musée. Cette idée de valoriser la technologie au travers de l'art tout en favorisant le progrès social, c'est l'un des objectifs de Compass. L'association basée à Neuchâtel emploie actuellement 3 personnes et participe à plusieurs projets européens et d'autres encore, dont certains dans l'arc jurassien. Rencontre ce soir avec sa présidente, Laure-Emmanuelle Perret-Eby. Bonsoir.
Bonsoir.
Sortie de boîte, Adrien Juvet.
Alors, vous avez un riche parcours académique, vous avez réalisé un doctorat en chimie, vous avez aussi mené 2 postdoctorats. Pourtant, aujourd'hui, vous êtes sorti du carcan, si on peut dire, de la recherche pure et dure. Pourquoi avoir fait ce choix ?
Eh bien, c'est vrai, c'est le choix qui est à la suite d'une évolution aussi de mon parcours. J'ai fait beaucoup d'années dans la recherche fondamentale. Ensuite, je me suis approchée de la recherche plus appliquée, notamment avec le photovoltaïque. Et puis, depuis 2 ans environ, j'avais besoin d'être encore plus près quelque part de la réalité et de l'application de ces technologies qu'on développe. Donc, c'est des intérêts qui ont évolué et puis surtout l'envie de pouvoir contribuer de façon plus concrète à ce qui se passe aujourd'hui.
Et pourtant, de travailler de manière concrète, vous avez justement collaboré à l'EPFL, puis au CSEM. Vous me disiez en préparant l'émission que vous y aviez un poste de rêve. Pourquoi l'avoir quitté, ce poste de rêve ?
C'est vrai que c'était un poste de rêve dont j'ai rêvé longtemps et puis pour lequel j'ai eu énormément de plaisir à travailler. Et puis à un moment donné, ça correspondait plus à ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. Et puis c'est pour ça que je me suis dit, si c'est plus ça que j'ai envie d'aujourd'hui, même si c'est le poste de rêve, crée ton poste, ton autre poste de rêve. Et puis c'est pour ça que je me suis lancée avec mes amis dans l'association Compass notamment.
Alors, oser lâcher pour réaliser son propre travail, ailleurs certains y réfléchissent, en rêve. Pour vous, oser lâcher, c'est un risque ?
Oui, j'y ai beaucoup réfléchi et ça n'a pas été une décision facile non plus, parce que c'est aussi oser lâcher un certain confort, c'est aussi lâcher quelque chose finalement qu'on a mis beaucoup d'années aussi pour atteindre. Mais au-delà de ça, ce qui était devenu très important pour moi, c'était de donner du sens à ce que j'étais en train de faire et puis du sens qui soit cohérent avec qui je suis et avec qui j'ai envie d'être et de ce que j'ai envie de faire. Et c'est surtout pour ça, en fait, que j'ai souhaité ce changement et puis que je l'ai concrétisé aujourd'hui.
Et aujourd'hui, en le concrétisant, ce choix donc, qu'on passe dans l'association, quel est votre rôle dans cette association ?
Alors, mon rôle, il est d'être présidente de l'association, mais surtout, on est trois associés, trois amis dans cette association qui avons chacun des rôles très spécifiques qui sont liés à nos compétences. Alors, mon rôle à moi, il est plus de l'expertise scientifique et technologique dans les projets qu'on mène.
Alors ça, c'est votre rôle, mais vous copilotez Compass avec Lats Kladni et Raphaël Pizzerra. Leurs rencontres, leurs apports aujourd'hui, c'est pour vous, ça représente une opportunité ?
Alors c'est une opportunité, je ne sais pas si je dis... Ça a été une magnifique rencontre qui s'est passée un peu par hasard finalement. Enfin, même que je pense que c'est pas des hasards. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de hasards, mais une rencontre qui s'est produite à un moment donné où on s'est retrouvé avec les mêmes questions qui étaient fondamentalement de donner sens à ce qu'on fait, de donner sens à notre travail. Et puis on s'est retrouvé plusieurs fois à échanger autour de ces questions. Comment est-ce qu'on peut contribuer chacun avec nos compétences et puis nos valeurs à donner sens à ce qu'on fait, à donner sens aussi au-delà du sens que ça a pour nous, mais quel sens ça peut avoir pour la société aussi, notre travail et notre quotidien. Et puis c'est autour de ces échanges avec eux qui sont plutôt du domaine de la communication, du marketing. Ils sont les fondateurs de l'agence Inox Communication à Neuchâtel. Et puis on a beaucoup discuté aussi sur le rôle des technologies aujourd'hui, quelle importance on leur donne, pourquoi certaines technologies qu'on développe aujourd'hui, comme le photovoltaïque, a du mal à s'implémenter. Et puis en réfléchissant aussi finalement comment la communication est faite autour des questions scientifiques. On sait très bien, comme scientifique, on sait très bien parler à d'autres scientifiques, mais on sait moins bien parler à un public plus large. Et puis finalement, après toutes ces discussions, on s'est dit, mais maintenant on arrête de parler et de réfléchir, on fait. Et on a créé ensemble Compass pour pouvoir justement réaliser des projets.
Alors justement, vous en avez réalisé un qu'on a essayé de décrire avec nos mots, le projet du Laténium, mais vous avez aussi développé, porté et contribué à des projets européens comme Bismart et Hyperion notamment. En quoi consistent ces deux derniers projets ?
Alors, le projet Bismart est un projet européen que j'ai la chance de diriger pour l'EPFL, qui est le coordinateur du projet. C'est un projet qui regroupe une quinzaine de partenaires européens qui viennent du monde académique, mais aussi de l'industrie, et qui a comme objectif de montrer que le photovoltaïque intégré au bâtiment fait du sens aujourd'hui en Europe, fait du sens bien sûr écologiquement, mais aussi économiquement, et que c'est aujourd'hui complètement rentable de faire une façade ou une toiture d'une maison solaire, et que en plus c'est une opportunité pour l'Europe de ramener une industrie liée au photovoltaïque en Europe. Et dans ce projet, donc moi j'ai la direction de ce projet, la coordination de ce projet, mais Compass est aussi un des partenaires du projet et a comme rôle de s'occuper de la communication du projet, et justement une communication qui n'est pas que de faire un site internet et un logo. On l'a fait bien sûr, mais c'est pas ça seulement. L'enjeu ici, c'est de pouvoir atteindre un public beaucoup plus large, et puis de pouvoir réveiller un peu les consciences et les émotions peut-être des gens, pour qu'on puisse réaliser aujourd'hui combien c'est important d'aller de l'avant avec ces énergies renouvelables, dont le solaire, et combien c'est à portée de main, et combien ça peut être aussi des installations qui sont belles et qui ne sont pas uniquement des objets purement techniques, fournisseurs d'électricité, mais qui peuvent embellir une toiture ou une façade.
Réveiller les consciences, comme vous l'avez dit, ça passe par l'émotion.
J'en suis convaincue, et on en est convaincue, Compass. L'émotion nous fait vivre les choses différemment. Il y a beaucoup de choses qu'on sait aujourd'hui de façon très intellectuelle, notamment toutes les questions qui sont liées autour de l'énergie et du réchauffement climatique. On sait que ça ne va pas, on sait qu'on doit faire autrement. Et en passant par l'émotion, eh bien, on vient toucher quelque chose de différent, qui fait comprendre d'une façon différente, ou qui donne une énergie différente pour avoir envie de faire autrement.
Alors, je vous ai rencontré au Laténium pour préparer cette émission, où vous avez installé des panneaux photovoltaïques derrière des images lacustres. Vous êtes fier de ce projet, c'est un projet emblématique pour vous.
Alors, bien sûr que je suis fière de ce projet. C'est notre première réalisation avec Compass, et puis c'est aussi une belle démonstration de ce qu'on a envie de faire. C'est un projet emblématique, je sais pas, mais en tout cas, c'est une belle démonstration de dire, par rapport au solaire, de dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus tellement d'excuses pour ne pas installer du solaire, et en tout cas pas celle que c'est pas esthétique, que c'est pas beau. Et surtout, ce projet, ce qui est intéressant, c'est que avant tout, c'est pas une installation solaire, avant tout, c'est d'avoir pu révéler un patrimoine qui est qui est ces villages lacustres qui sont au fond du lac, qui font partie de notre patrimoine protégé aussi par l'UNESCO. Et puis le but du projet, c'était avant tout de mettre ça aux yeux du public et puis de le faire effectivement sur des panneaux solaires. Ça s'y prêtait bien puisque c'est un mur plein sud. C'était une façon aussi de se dire, voilà, le panneau solaire peut aussi être un support à l'art, à l'histoire, au patrimoine. Et c'est assez joli aussi ici dans ce projet d'arriver à relier nos origines lacustres avec les technologies qui sont en train d'être développées et qui sont très actuelles aujourd'hui, de relier un peu les deux bouts ensemble.
Alors, deux associés à vos côtés, on l'a dit, Raphaël Pizzera en charge des aspects créatifs, Lats Kladni plutôt orienté sur les questions stratégiques. Compass veut conjuguer innovation et émotion. Mais est-ce que finalement, l'art et les émotions devraient être intégrés à tous les domaines de la société et de l'économie? On écoute à ce propos Lats Kladni.
Sortie de boîte. Il y a une dimension idéaliste hein, dans notre démarche. Et puis cette dimension, elle est déjà inspirante en soi. C'est génial d'avoir ça, de pouvoir faire des projets et puis de s'enthousiasmer sans contrainte économique. Enfin, bien sûr, il y a des contraintes économiques, mais on est dans des propos philosophiques et de conviction. Donc là, c'est déjà un immense pas en avant dans notre démarche personnelle. Et puis, on se rend compte qu'en transposant cette démarche à travers des propos qui sont artistiques, on suscite une émotion qui crée elle-même de l'adhésion. Et à votre question, je répondrai oui, ça serait génial d'avoir ça dans tous les domaines. Mais c'est pas nouveau, hein. Les Medici, ils ont sponsorisé beaucoup d'artistes, de philosophes pendant la Renaissance. Et puis, c'est un héritage dont on profite encore aujourd'hui, donc qui a été plus puissant que l'économie elle-même. Il y a deux éléments dans Compass auxquels on tient par-dessus tout. C'est de développer des projets qui montrent une forme d'optimisme. On est dans une ère ou une période de notre civilisation qui est anxiogène. On parle beaucoup de collapse, on parle d'avenir bouché ou d'avenir qui fait peur. Sans être aveugle, on essaie de poser un regard sur des technologies qui offrent de l'espoir et, ou en tout cas une approche qui est optimiste. Ça, c'est très important. La deuxième, ce qu'on a réussi à démontrer à travers Compass, c'est qu'on est dans une démarche de faire. C'est-à-dire qu'entre nous, on a des discussions, des échanges qui sont philosophiques, intellectuels, c'est des rencontres, c'est du mélange de genres, du mélange de tous les genres. Mais très vite, on se met d'accord sur des projets. Et comme on est jeune, on fait des petits projets. Puis après, on participe à des moyens projets, des grands projets. Mais toujours, on fait. On est toujours dans une démarche de faire. Et c'est ça le plus important. C'est plutôt que de réfléchir pendant 2 ans à savoir si on veut faire ci ou si on veut faire ça. On se donne les moyens d'aller très, très vite. Et le Laténium est un exemple parfait dans lequel on a eu une sollicitation, une idée. On est allé voir le Laténium. Le Laténium, en 10 minutes, a adhéré au projet et 4 mois après, on a inauguré cette pièce. Donc, on peut se rendre compte que quand tout le monde adhère à cette envie de faire, les choses peuvent aller beaucoup plus vite que ce qu'on imagine.
Sortie de boîte.
Alors, Laure-Emmanuelle Perret-Eby, on vous retrouve ici en direct. L'un des objectifs de Compass, c'est de valoriser la technologie au travers de l'art tout en favorisant le progrès social. Vous y parvenez comment?
Eh bien, on y parvient à travers les projets, comme l'a dit Elat juste avant, en réalisant des projets qui ont été choisis, qui ont été pensés aussi pour faire du sens, pour donner du sens et pour apporter quelque chose de bon à la société. Et ça peut être même juste de questionner. Et ça, c'est une chose qui est aussi très importante au Compass. Et on se pose beaucoup de questions et on a envie de questionner, on a envie de remettre en question certaines idées aussi qui sont dans notre société. Et puis, les questions, ça permet de réfléchir, ça permet de penser. Et trop souvent, dans le domaine des technologies, on ne prend pas le temps de penser, on ne prend pas le temps de réfléchir au-delà de l'aspect purement technique de ce qu'on doit résoudre, mais plus largement de l'impact que ce qu'on est en train de développer a dans la société et puis finalement de quelle société on est en train de mettre en place.
Mais vous allez encore plus loin parce qu'en préparant cette émission, vous m'aviez expliqué que vous espériez changer le monde. C'est ambitieux, non? Et comment vous allez y parvenir?
Oui, alors c'est ambitieux, un peu prétentieux peut-être de dire que j'ai envie de changer le monde. Plus que j'ai envie de contribuer, oui, à le faire progresser en tout cas. Parce que oui, j'aimerais qu'il change. J'aimerais qu'ils ralentissent un peu, j'aimerais qu'ils deviennent aussi plus respectueux, plus raisonnables, plus bienveillants aussi. Et comment y contribuer? Et ben, alors je pense que déjà de façon personnelle, c'est aussi une attitude personnelle de faire différemment, d'oser faire différemment. De pas forcément suivre le mouvement parce que c'est comme ça qu'on fait. Non, on peut faire autrement, on est libre de faire autrement.
Mais ça veut dire que si d'autres structures, d'autres associations, d'autres entreprises parallèles à la vôtre, qu'on pourrait considérer comme des concurrents, existent, évoluent, proposent les mêmes produits, vous n'allez pas forcément les considérer comme des concurrents?
Non, mais Compass ne propose aucun produit, on fait des projets, on fait des réalisations artistiques, et technologique. Le jour où il y en a tellement d'autres, des Compass, peut-être que là, le monde aura changé. Donc, ce serait une bonne nouvelle.
Pourtant, on a le sentiment dans la société, parfois encore aujourd'hui, que installer chez soi des panneaux photovoltaïques, c'est quelque chose de soit c'est compliqué, soit c'est cher. Vous, au travers de vos projets, notamment celui du Laténium, qui est en libre accès, vous essayez de nous dire non, c'est une idée erronée, c'est possible, on peut le faire.
Alors, le projet du Laténium, il montre, si on le regarde de nouveau avec les yeux techniques, il montre que le photovoltaïque permet beaucoup de choses et permet même une installation artistique telle que celle qu'on a fait avec ces photos. Ça vaut la peine quand même de différencier le solaire en général, qui est celui qu'on met sur nos toits pour faire des centrales solaires ou sur nos toitures pour faire des toitures solaires, avec des installations artistiques comme celle du Laténium, parce qu'elles n'ont pas tout à fait la même fonction. Alors le point commun effectivement, c'est qu'elles produisent les deux de l'énergie, mais la centrale solaire qui est faite sur un toit plat ou qui est faite sur une maison individuelle, elle a comme rôle vraiment de produire de l'énergie. Elle quand elle est sur un toit, elle a le rôle de remplacer la tuile. Ce qu'on a fait au Laténium, on a mis en avant un patrimoine qui était enfoui sous l'eau. On a mis en avant un travail d'archéologue, de photographe. Et c'est ça qu'on a fait en premier. Le fait qu'elle produise de l'électricité, cette installation, c'est presque un deuxième point qui est super bien, parce que ça rend complètement intelligent le système. Mais ce n'était pas le but premier. Le but premier n'était pas de maximiser l'apport en énergie, c'était plutôt de rendre actifs des photos qui étaient passives parce qu'elles ne produisaient rien. Donc c'est assez différent. Et la question des coûts, elle est pas du tout la même quand on parle d'une centrale solaire que quand on parle d'un module photovoltaïque sur une façade colorée, bien intégrée, ou bien d'une installation comme au Laténium.
Mais j'en reviens à l'aspect financier. Pour cette installation du Laténium, c'est quand même relativement grand, 30 mètres carrés. Si sur une coopérative d'habitation, par exemple, on installe 30 mètres carrés de panneaux photovoltaïques d'entrée de gamme, il faut débourser quel montant? Il faut envisager quel investissement de départ?
Alors, il n'y a plus d'entrée de gamme. Je crois qu'aujourd'hui, la qualité des panneaux solaires, elle est standard. Elle est bonne. Mais c'est une installation 30 mètres carrés, ça doit être entre 15 et 20 000 francs.
Ça veut dire qu'à terme, si les citoyens étaient sensibilisés par vos projets, notamment au Laténium, pouvaient considérer la possibilité d'installer des panneaux photovoltaïques sur chacun de nos toits, est-ce que le rôle des entreprises énergétiques n'était pas à remettre en question? Est-ce que ces entreprises énergétiques ne devraient pas se remettre en question?
Alors, se remettre en question, peut-être plus que se remettre en question, c'est de s'inventer un peu différemment par rapport à ce qui est en train de se passer, parce que de plus en plus, on installe du photovoltaïque. Et ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, ça n'a jamais coûté si peu cher. Une cellule solaire, elle coûte aujourd'hui moins d'un euro. Donc, pour faire un panneau, il en faut 60. Ça fait environ 60 euros de cellule solaire, plus après le coût du verre et le travail de fabrication. En gros, la production d'un panneau solaire aujourd'hui, c'est 100 francs le panneau qui fait 1,6 mètre carré. Donc, c'est des coûts qui sont devenus extrêmement bas, qui ont changé très, très vite ces 10 dernières années. Et ça, c'est un message très important que tout le monde, que le particulier doit entendre. Aujourd'hui, le photovoltaïque ne coûte plus cher. Et que si on fait un toit aujourd'hui, et même si on construit une façade, c'est complètement absurde. Juste financièrement, de mettre des tuiles et de ne pas mettre des panneaux solaires sur son toit.
Ça passe par un peu d'émotion, du coup ?
Eh bien, peut-être, oui. Le rôle aussi de cette installation au Laténium, c'est de dire « Waouh, c'est beau ». Et le photovoltaïque peut être beau. On n'a pas besoin d'avoir des panneaux solaires avec des cellules bleues, l'objet hyper technique qui va plaire aux ingénieurs. Comme je suis aussi, hein. Mais qui ne plaira pas aux architectes, qui ne plaira pas à celui qui a envie d'avoir une belle maison, une belle toiture. Mais aujourd'hui, ces produits existent, et puis c'est possible, et puis on peut aller jusqu'au fait d'avoir même des images et des photographies à l'intérieur. En passant devant le Laténium, il n'y a aucun indice qui nous permet de se dire que c'est des panneaux solaires. Donc aujourd'hui, la technologie, elle est mature, elle est prête. Le coût, il est complètement abordable aujourd'hui. Et puis c'est des installations qui sont économiquement, qui font du sens, puisqu'elles sont rentables après quelques années.
Laure-Emmanuelle Pereibi, merci d'avoir été notre invitée ce soir. Belle soirée.
Merci.
Et on se quitte avec la chronique horlogère, pile à l'heure, chronique réalisée par Marie-Lise Saillard.
Pile à l'heure. Il était une fois les trois petits cochons. Ils voulaient avoir leur maison bien à eux, mais chacun voulait construire à son idée.
Aujourd'hui, je vous raconte une histoire de cochon.
Mon cochon préféré, c'est une petite cochonne. C'est mon épouse.
Alors non, le cochon dont nous allons parler, ce n'est pas le député français Jean Lassalle.
Devant la maison de Porcinet, on fait la danse du ballet.
Oh, mais quelle corvée !
Le cochon qui nous intéresse, ce n'est pas non plus le copain de Winnie l'ourson, Porcinet.
Winnie !
C'est Porcinet !
Et en préparant cette chronique, je me suis rendu compte qu'il y avait bon nombre de cochons célèbres.
Je peux m'entraîner à conduire le troupeau aujourd'hui ?
Perdu ! Le cochon du jour ne se prend pas pour un chien berger, mais pour un artiste.
J'aurais voulu être un artiste.
C'est l'histoire d'un cochon, plus précisément une truie, sauvée d'un abattoir par une association qui l'a placée dans un refuge en Afrique du Sud. Dans ce refuge, il y a plein de jouets. Notre cochon, qui aime aussi jouer au foot et se balader sur la plage, a choisi les pinceaux. C'est ainsi qu'il a commencé à peindre. Il a rapidement été baptisé Picasso. Alors, pas Picasso, hein, Picasso, pig comme cochon en anglais. Jeu de mots, quoi. Et figurez-vous que selon l'astrologie chinoise, l'année du cochon a commencé le 5 février. Pour cette interprétation, merci à Noël Jamais, quintuple champion du monde de cri de cochon. Mais revenons à nos moutons, enfin à notre cochon, Picasso. La Chine est un marché important pour Swatch et la marque horlogère a décidé de faire une montre spéciale pour l'entrée dans l'année du cochon. Elle a fait appel au talent de Picasso pour créer une montre originale en édition limitée, la Flying Pig by Miss Picasso.
Les cochons dans l'espace.
Franchement, je la trouve assez réussie, cette montre, plutôt jolie. Et je ne suis pas la seule, hein. Chaque exemplaire numéroté a vite trouvé preneur. Il en existe désormais sur certains sites de revente ou d'enchères. Sinon, vous pouvez vous rabattre sur un tableau peint par Picasso. C'est un vrai business, hein. Cette toile se vend entre 400 et 3000 dollars. Mais il paraît que c'est pour la bonne cause et que tout est reversé au refuge pour animaux.
Ma Piggy, chérie, sauras-tu un jour à quel point je
T'adore.
Pile à l'heure.
Merci de nous avoir suivis. Ce soir, cette émission pourrait être réécoutée d'ici quelques minutes sur notre site internet. Excellente soirée.
Sortie de boîte.